Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré la troupe de théâtre du NTP, le nouveau théâtre populaire, pour la première fois en 2016, conseillé par une collègue et Xavier Liébard, réalisateur et instigateur du laboratoire de réalisation audiovisuelle aux ateliers d'Angers. Voici ce qu'on peut lire sur leur site à la rubrique « L'histoire du nouveau théâtre populaire ». Tout a commencé en 2009, lorsque le groupe originel d'une douzaine de membres, après quelques jeunes années à éprouver les difficultés de la création théâtrale en région parisienne et dans le off d'Avignon, eut soif d'autre chose. Un lieu à l'écart, où l'on pourrait faire ce qu'on voudrait, affranchi des contraintes ordinaires de production. Le projet se cristallisa autour de l'idée d'un festival. Il aurait lieu pendant les vacances d'été, personne ne songeait à être payé, alors. On présenterait plusieurs pièces, pour la joie d'avoir beaucoup à faire, et pour le reste, l'ardeur à l'ouvrage supplérait au manque de temps et d'argent. Pour les acteurs, c'était l'occasion de s'emparer des grands rôles du répertoire à 20 ans. Pour les metteurs en scène, cela signifiait une totale liberté dans le choix du répertoire, en particulier celui des pièces à plus de 5 acteurs, inaccessibles aux jeunes compagnies en temps normal. Pour tous, c'était s'ouvrir un espace d'expérimentation. Il ne manquait plus qu'un nom. Ce sera le Festival du Nouveau Théâtre Populaire. C'est que l'esprit de Jean Villard, qui donne aussi son nom au plateau et à qui sont volées ses affiches rouges et blancs et la police de caractère de Jacquenot, est partout. Dans les pièces choisies, au cœur du répertoire du TNP, la première édition présente Roméo et Juliette, le misanthrope, et une adaptation pour enfants du conte d'Anderson. Dans le prix des places, résolument accessible, un tarif unique qui allait devenir une des pierres angulaires du projet, 5 euros pour tous. Et dans un rêve de théâtre, exigeant et festif, populaire et littéraire, et aussi convivial que possible. Il ne manquait plus qu'un lieu. Marie-Claude Herson-Macarel, la grand-mère de Lazare, avait une maison dans un petit village du Maine-et-Loire, Fontaine-Guérin. Elle accepta, fait extraordinaire, qu'on vienne construire un plateau de bois dans son jardin et qu'on y improvise un festival de théâtre l'été suivant. La mairie prêta quelques centaines de chaises et tout fut en place. Je m'y suis rendue pour la première fois en 2016 et j'ai été conquise aussitôt tant par le fabuleux jardin, la salle en plein air avec vue sur le clocher tort de l'église, le niveau de jeu des acteurs et les lectures incroyables qu'ils font des pièces. Le théâtre comme une consolation. Et puis, dans le cadre d'un projet européen, mes élèves ont joué la paix d'Aristophane avec la troupe du NTP. Cette rencontre nous a transformés et bouleversés. Cette année, la troupe jouait Molière et elle revenait à Fontaine-Guérin, auréolée du succès d'Avignon. J'ai vu le Tartuffe et j'ai été surprise et chamboulée par leur lecture qui me semblait apolitique et atemporelle, contrairement à la lecture moderne qu'ils avaient faite des Illusions perdues de Balzac. Lazare Herson-Macarel me répond.
Ah, alors ça, c'est certain que le projet de, du metteur en scène, Léo Cohen-Paperman, c'était effectivement d'assumer la distance historique avec, avec l'œuvre. Donc, effectivement, on est tous en costume d'époque, dans un jeu extrêmement codifié, qu'on peut supposer être une rêverie sur la manière dont ce texte a été joué quand il a été créé. Et de ce point de vue-là, il n'y a effectivement aucune volonté d'actualisation. En revanche, si ce spectacle a rencontré un tel succès, parce que c'est un des grands succès de cette édition, je pense que c'est parce que cette distance historique et le fait de l'assumer fait apparaître ce en quoi la pièce est d'une certaine manière éternellement politique. Et là, instinctivement, je pense à cette dernière scène, qui est le propre de cette mise en scène, où toute la famille se venge de l'imposture de Tartuffe, encouragée par le pouvoir royal. Et là, il y a toute une... Enfin, chaque fois, en tout cas, que je le joue modestement, en étant Madame Pernelle, chaque fois que je le joue, je sens qu'il y a une charge politique dans le fait de raconter comment la société a besoin de créer des boucs émissaires. Et comment, quand on est dans la difficulté, quand on rencontre l'injustice, on est toujours plus injuste en retour. Et de ce point de vue-là, je pense que malgré tout, il reste une lecture très politique de l'œuvre.
Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je l'ai trouvé. Moi, j'ai vu ce qu'avait fait Léo des Illusions perdues.
Alors pour le coup, c'était quelque chose qui était radicalement actualisé, effectivement. Le diptyque Balzac qu'on a fait en 2018 avec Illusion perdue que montait Léo et Splendeur et misère des courtisanes que je montais dans la suite, on avait fait le parti, effectivement, de se dire le grand roman du 19e, c'est l'invention du monde contemporain et donc du monde capitaliste et donc du monde de l'exploitation généralisée des uns par les autres et du règne de l'argent. Et donc, ça nous semblait évident de le faire en costume contemporain et de le faire en appuyant parfois à l'excès sur les parallèles qu'on pouvait faire entre le monde actuel et le monde de Balzac, les romans nous ayant frappés par leur très grande modernité et même leur caractère visionnaire.
J'ai entendu quand même des gens dire, surtout au moment où le cachet se cinq, je ne saurais voir, qui concerne quand même beaucoup les femmes.
Bien sûr.
J'ai entendu deux femmes dire c'est incroyable.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ce dont on se rend compte, et ça c'est la magie du théâtre, c'est que on n'a pas besoin que ce qui est sur le théâtre ressemble au réel pour se sentir concerné, c'est-à-dire au réel connu, au quotidien. On a besoin, en revanche, que la parole passe. Et quand elle passe, alors on a beau être en costume d'époque, on entend très bien ce dont il est question.
J'ai reposé mon interrogation à Léo Cohen-Paperman, le metteur en scène de Tartuffe. Le Tartuffe, une lecture moins politique ?
Oui, c'est plus... c'est intéressant comme question. C'est plus fondamental que... En fait, Illusion perdue, c'est la naissance de l'individualisme. Donc c'est avec Balzac. Donc c'est, ça raconte effectivement quelque chose qui est plus circonstanciel. Je pense que Tartuffe raconte sous le masque de la comédie quelque chose d'un peu plus fondamental qui est en quoi on vit dans un monde où la faiblesse est une vertu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est, est perçu comme une vertu. C'est pour ça que les premiers seront les derniers. C'est vraiment un des... Moi, le livre qui m'a beaucoup guidé pour faire la mise en scène de Tartuffe, c'est Le Royaume d'Emmanuel Carrère, parce qu'il raconte comment est-ce que les vertus... Qu'est-ce que le christianisme a apporté au monde en tant qu'ensemble philosophique et moral. Et un des principaux apports, c'est l'idée que on doit avoir pitié des faibles. Et que le fait d'avoir une vie de souffrance est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant. Et que, voilà. Et du coup, il... alors, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est moins directement politique, parce qu'il y avait un peu plus de... Il y avait aussi la question de la polémique dans Illusion perdue, qui, là, disparaît complètement. Mais c'est peut-être plus philosophique et moins politique comme projet. Comme
je l'ai trouvé. Moi, je l'avais vu jouer où il était vraiment clairement un salaud. Et là, je le trouve, à part obsédé sexuel, je le trouve pas... clairement un salaud. On a presque pitié de lui.
Bah, c'est quelqu'un qui comprend que pour faire pitié, il faut être faible. Et on voit qu'il a une perruque, on voit que c'est pas un vrai handicapé, donc on se dit mais ça se trouve ses boutons, c'est faux aussi. En fait, ça se trouve tout est faux, puis ça se trouve son costume, c'est bidon, c'est un acteur. Enfin, c'est ça l'idée. Il y a une version du spectacle où il ne se levait pas du fauteuil au tout début, qui était beaucoup plus ambivalente, parce qu'on se disait simplement qu'à la fin, les gens se vengeaient sur un handicapé qui était vraiment handicapé. C'était ultra violent. Mais finalement, le spectacle est plus moral et plus... on a décidé que voilà, ce serait mieux si le spectacle était plus moral. Et puis surtout que Tartuffe, ça parlait avant tout de quelqu'un qui est un acteur. Et il joue. Et voilà. Après, je pense que comme tout acteur, il est absolument sincère dans son, par exemple dans son amour pour Elmire, et peut-être dans plus de choses qu'on ne le croit. Je pense qu'un acteur peut pas être bon s'il ne croit pas un petit peu à ce qu'il dit, s'il n'est pas un peu modifié par ce qu'il dit. Donc ça parle de ça aussi.
Et l'amour homosexuel avec Orban ?
Alors oui, c'est un peu emmerdant parce que en fait l'idée c'était plus d'un baiser à la russe quoi, mais c'est devenu un peu un truc. Je sais pas si on va garder ça parce que c'est.
Orgon est amoureux,
quand même. Orgon est amoureux, ça c'est sûr. C'est même ce qui le rend passionnant, c'est que peut-être même que c'est Orgon qui emprisonne Tartuffe. Ce que je trouve comme une idée intéressante, c'est qu'en fait, qui est visible pour le coup avec le coup du fauteuil, c'est que du coup, on se dit mais qui domine l'autre ? On peut penser que c'est Tartuffe au début, puis en fait, Tartuffe, quand on lit un peu attentivement la scène avec Damis, on a l'impression qu'il découvre, qu'il a vraiment envie de partir, quoi, que c'est vraiment dangereux pour lui de rester là et qu'il est vraiment prisonnier physiquement d'Orgon. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, cette. Moi, j'aime bien que ce soit plus ambivalent parce que je crois que c'était Roger Planchon qui avait fait une mise en scène où ils étaient vraiment homosexuels. Où c'était vraiment. Moi, j'aime bien qu'il y ait une espèce d'amour un peu adolescent, platonique. Oui, voilà, c'est ça, frustré et qu'ils veulent lui faire épouser sa fille pour lui faire l'amour, mais par procuration. Enfin, je trouve ça plus tordu et marrant. Que le truc direct, donc je sais pas, le baiser, on va voir ce qu'on en fait.
D'accord. Ouais.
J'ai aussi vu Molière malgré lui, une création écrite par Valentin Borot, à partir de la biographie de Molière écrite par Georges Forestier, et ayant lu cette très sérieuse biographie avec un peu de difficulté, j'ai été impressionnée par l'adaptation. J'ai donc interrogé Émilien Diard de Teuf, un des trois acteurs de la pièce.
Oui, bien sûr. Par-dessus le côté universitaire,
ouais,
Georges Forestier,
puis
à son âme.
Beaucoup de choses.
Oui. C'est toute la difficulté quand on fait ces spectacles-là, dont on commence à avoir un peu l'habitude dans nos proportions. La vie d'un homme en 50 minutes, c'est forcément. Il faut trouver la part de ludique et la part d'impossible. Enfin, il y a de l'impossible, parce qu'on ne peut pas résumer une vie en 50 minutes, surtout pas la vie d'un monument. Et donc il faut le faire, il faut essayer, on survole, mais on survole joyeusement, et puis par le théâtre, quoi. C'est...
Moi j'ai trouvé le travail super intéressant sur la mort à la fin,
ouais.
qui est à la fois annoncée et qui surprend, tout le monde meurt plusieurs fois, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez travaillé là?
Ça, c'est des secrets de répétition, non pas que ce soit secret, mais c'est-à-dire que c'est des choses qui n'arrivent pas en répétition. On cherchait une fin, et sans vous mentir, on l'a trouvée en 3 minutes. C'est-à-dire que c'est la première idée la plus simple et la plus idiote qui nous est venue et qui nous a fait le plus rire. Et puis finalement, en fait, on s'est dit, non seulement elle nous fait rire, mais en plus elle est profonde, parce que ça raconte quelque chose de l'acteur, à la fois de la rivalité entre les acteurs, de la comédie qui se moque de la mort, mais de la mort qui arrive vraiment, parce qu'à la fin, les trois acteurs ne se relèvent plus, donc il n'y en a plus un seul pour saluer, ce qui fait qu'ils sont quand même vraiment morts. Ça raconte l'éphémère de notre pratique et de notre passage sur Terre. Et donc, c'est un bel hommage à Molière, parce que la comédie, quand même, est une manière de masquer l'immense désespoir de Molière. C'est quand même un mec qui n'était pas très, très drôle. Quand on regarde les thèmes de ses pièces, on se dit... ça ne devait pas être un marrant, quoi. Ouais, bah non, mais dans Tartuffe, c'est vrai que c'est un type qui rentre dans une famille pour s'en faire aimer et la détruire. Dans Don Juan, c'est un homme qui détruit la vie de tous les gens qui passent sur son passage. Et on va. Le misanthrope, c'est quelqu'un qui décide finalement de rompre en visière avec tout le genre humain. Bon, c'est pas. La note d'espoir, elle est compliquée à trouver, quoi. Mais la comédie rend la chose. C'est comme une espèce de catharsis par le rire, quoi. C'est assez fort.
Mon fils me disait que ce qui l'insupportait, et en seconde, enfin il entre en première, ce qui l'insupportait chez Molière, c'était la fin. Que ça n'allait pas. Il trouvait que c'était trop joyeux, avant tout.
Les fins de Molière, c'est ça ?
Ouais, les fins de Molière.
Les fins de Molière.
Ça n'allait pas.
Mais ce qui est assez génial, c'est qu'elles ont quelque chose de bâclé, ces fins.
Oui.
Et c'est comme si. Mais c'est peut-être même notre rapport, nous, à la fiction qui a changé, parce que on sent que c'est des gens qui adoraient les premiers actes et qui torchaient les derniers, quoi. Comme si au fond, à la fin, fallait finir, mais que la fin n'était pas le plus intéressant. Donc ils font rentrer des personnages qui en un coup de cuillère à peau, remettent la société à l'endroit, le roi est à la bonne place, ses sujets sont en bas, et tout ira bien, et rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, circuler. Il y a un peu ça aussi chez Shakespeare, j'ai l'impression que c'est aussi, ça vient de ces auteurs qui ont écrit pour le plateau. Ils ont beaucoup d'inspiration au début, puis au bout d'un moment, ils sont en roue libre et ils finissent pour... Bon, là, je finis comme ça, et puis voilà. C'est le...
Il y a peut-être aussi le vouloir faire, quoi. Absolument, pas déplaire, justement, à son public, qu'on lui dise pourquoi ça se termine toujours mal.
Ça, je me garderais bien d'avoir un commentaire là-dessus, parce que je ne sais pas quel était le... En fait, il y avait une part, enfin, c'est ce qu'on s'est dit avec Léo, quand on a fait des recherches sur le potentiel de nuisance de Molière, en fait, il était assez limité et assez consensuel parce qu'il s'adressait à une cour plutôt de gens éduqués, plutôt gentiment athées et qui avaient un respect du roi, mais un respect mondain du roi. Enfin, voilà, il n'y avait pas la peur de la sanction. Enfin, c'était quand même une société assez libérale, quoi. Et il était l'auteur le plus drôle de cette société libérale. Mais c'était pas quelqu'un qui allait non plus trouver des vérités, c'est pas Solzhenitsyn, quoi. C'est pas non plus quelqu'un qui s'est érigé en rempart contre la barbarie, on est quand même dans quelqu'un qui a relativement été protégé toute sa vie, et ça fait effectivement des comédies qui aujourd'hui nous paraissent très corrosives, parce que je pense que la société de l'époque était très corrosive, et qu'ensuite dans le siècle quelque chose se retend de la... d'une violence politique, d'une violence religieuse, et il y a un retour des extrémismes qui fait que la société se cadenasse, mais dans son entièreté, et peut-être que même Molière n'aurait pas pu écrire la pièce qu'il a écrite 20 ans plus tard. C'est des moments, en fait c'est plus que des hommes, c'est des moments historiques, je pense, qui permettent... Bon, effectivement c'est un génie, mais c'est un génie, on n'est jamais un génie ex nihilo, je pense qu'on est un génie de sa situation, de son époque, de son contexte. Et le génie de l'art en France, c'est peut-être de marier le pouvoir avec le génie créateur, avec une circonstance favorable, avec des arts qui sont très privilégiés. Et c'est ça qui fait qu'il y a une culture qui se développe au grand siècle, quoi, et qui disparaît au siècle suivant. On se fiche totalement de ce qui s'est passé. Enfin, on ne s'en fiche pas totalement, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup moins besoin aujourd'hui, ce qui suit. Juste après Racine... Allez me citer un auteur qui est vraiment compté. Après, avant Marivaux, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
J'ai ensuite posé la question à Lazare Herson-Mincarel du parallèle entre la troupe du Nouveau Théâtre Populaire et la troupe de l'Illustre Théâtre qui a contribué à créer Molière.
C'est ça, il y a l'idée que moi j'ai découverte, parce que donc j'ai pas directement travaillé sur ce spectacle, mais sur les autres spectacles de la trilogie du Nouveau Théâtre Populaire autour de Molière. Mais il y avait l'idée comme ça d'avoir un spectacle qui l'accompagne et qui raconte la vie de Molière. Et évidemment, si elle est souvent racontée, c'est parce qu'il y a plein de choses à raconter à travers cette histoire, et notamment toute la mythologie du théâtre en France depuis 400 ans, mais aussi effectivement notre propre histoire, dans la mesure où on sait que la jeunesse de Molière, c'est l'Illustre Théâtre, c'est les tournées, c'est l'idéal de, à la fois de joie de vivre, de partage, et aussi d'égalité entre les acteurs autant que possible. Et c'est tout ce qu'on essaye de défendre, nous, depuis 13 ans qu'on est ici à Fontaine-Guérin. Oh bah, c'est sûr que ça entre en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est sûr que quand on écrit un spectacle, on l'écrit avec ce qu'on vit à l'instant où on l'écrit, évidemment. Donc il y avait plein de choses à raconter de nos difficultés aussi, en racontant la vie de Molière, et aussi essayer de s'inspirer du génie qu'il avait pour faire de ces accidents de la vie une force de création. Et effectivement, chaque fois que son théâtre était fermé, soit pour une raison de deuil national, soit pour une raison d'épidémie, il en profitait pour écrire un chef-d'œuvre, comme Shakespeare le faisait 50 ans avant lui. Et aujourd'hui, en tant que troupe de théâtre, on essaye de tirer le meilleur des difficultés collectives qu'on rencontre pour continuer à faire des spectacles.
Et comme Lazare jouait Don Juan et que je ne comprends pas cette pièce, j'ai demandé à Lazare de me l'expliquer.
Je t'ai dit des part que je comprenais pas Don Juan, tu m'as répondu moi non plus. Tu peux m'expliquer comment tu comprends pas?
Ah bah c'est toi, Don Juan. C'est une boutade parce que évidemment ça fait maintenant 4 mois que je travaille d'arrache-pied sur Don Juan. Quand je dis que je ne le comprends pas, c'est parce que chaque soir on le joue, on s'affronte à l'étrangeté de cette pièce. C'est la pièce la plus étrangement construite de tout le répertoire classique. Il n'y a pas un acte qui raconte la même chose que le précédent. Il y a des personnages qui arrivent et qui disparaissent. Et ça, à l'infini pendant 5 actes. Comme si c'était une espèce de cavalcade vers la porte de l'enfer. Mais une fois qu'on arrive à le comprendre quand même comme justement une espèce de course à la mort, d'expression d'une soif d'absolu, alors tout commence à trouver sa place et sa nécessité. Et c'est vraiment ce qu'on s'est raconté dans cette mise en scène, c'est l'idée un peu contre-intuitive que peut-être Don Juan est le plus croyant de tous les personnages. C'est-à-dire c'est celui qui désire désespérément rencontrer Dieu et qui veut le forcer à se montrer. Et de ce point de vue-là, je pense toujours à cette réplique de l'acte 5, au moment où Don Juan voit arriver le spectre, tout près du châtiment, et qui vient annoncer le châtiment. Don Juan dit « Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. » Et c'est la réplique qui m'aura guidé, moi, dans le travail, c'est-à-dire ce désir fou d'être tellement dans le péché et dans le blasphème et dans la rupture avec tout ce qui fait société, que Dieu soit obligé de se montrer. Et c'est ce qu'on a essayé de raconter.
C'était ma rencontre avec 3 acteurs et metteurs en scène du nouveau théâtre populaire.